La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Une poésie singulière s'est développée à Paris autour de quelques artistes fascinés par les glaires du visible, l'étrange, le macabre, le merveilleux. Crapauds boursouflés aux sirènes voluptueuses entourées de menaces, algues caressant des corps contorsionnés, monstres surgis des retraites obscures, ombres inquiétantes, rêves aquatiques. Toutes ces figures baignent l'eau brûlante de l'imaginaire au tournant du 19e siècle. Le musée Bourdel, en présentant l'une des figures de ses rêveries, Niels Hansen Jacobsen, ce très grand sculpteur, peu connu aujourd'hui en France, qui pendant 10 ans développa cette sonorité onirique, rassemble autour de lui les autres artistes explorateurs de ce symbolisme psychique, dont l'esprit ressuscite traditions orales, folklore et contes anciens. Autour de la personnalité de Jacobsen flottent des noms connus comme celui de Gauguin, Gustave Moreau ou de l'exquis Redon, mais aussi d'autres que nous connaissons moins comme le grand Jean Cariès et ses monstres, Ranson et ses forêts mystiques, Jens Lund et ses tableaux éplorés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérôme Godeau. Bonjour Jérôme, comment allez-vous ?
Écoutez, très bien puisque je vous vois.
Vous êtes le co-commissaire de l'exposition, on vous connaît comme commissaire dans de nombreuses aventures, par exemple, je pense à Georges Sand au musée de la vie romantique.
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Daniel, c'était vraiment une famille de l'esprit, la famille du musée de la vie romantique.
Oui, et Daniel Marchessault est un merveilleux historien original, toujours singulier, poivré, je pourrais dire. Vous avez travaillé aussi au musée Zadkine et vous êtes donc en ce moment l'un des conservateurs du musée Bourdel, ce musée absolument fantastique. Et on se disait, avant de commencer l'émission, il faudrait absolument, absolument qu'on revisite Bourdel sur cette période tellement intense de ses débuts, en fait, de ses 25 premières années.
Bourdel est un très grand sculpteur et plus on vient au musée, plus on s'en aperçoit. Donc j'incite vivement les auditeurs à revenir nous voir.
Alors cette fois-ci, vous avez choisi avec Amélie Simier, la directrice du musée Bourdel et du musée Zadkine, de faire cette exposition sur les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen. Et là, tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a un aspect de l'art que nous négligeons peut-être un petit peu en ce moment, qui est un art extrêmement travaillé par l'imaginaire littéraire.
À la fois par l'imaginaire littéraire et par la matière aussi. Parce qu'en fait, le propos de l'exposition est né d'une volonté de Teresa Nielsen, qui est la conservatrice du Kunstmuseum de Wesen, qui est dans le Jutland, à quelques centaines de kilomètres de Copenhague, et où l'œuvre de Jacobsen est conservée. Et lorsqu'elle est venue voir Amélie, il y a eu le désir comme ça de faire ressurgir cette... ce monde qui est à la fois vraiment inspiré, c'est sûr, par la mythologie nordique, par les contes d'Andersen, et en même temps une exploration de la matière, je dirais quasi organique, puisqu'en fait, Jacobsen va, si je puis dire, inaugurer le grès émaillé au Danemark, et ça c'est quelque chose qu'il a rapporté de Paris et de la rencontre fascinée avec, entre autres, Jean Cariès et avec les grès japonais.
Au Danemark, grosso modo, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au début de la carrière, le début de la carrière de Jacobsen est quoi? 10-15 ans avant son arrivée?
En fait, c'est un peu un enfant, il est très doué, c'est un enfant prodige, donc à Wesen, il est d'une famille de cultivateurs relativement aisés, mais il va être très poussé, je veux dire, par sa ville natale, il va être soutenu, il va partir pour Copenhague où il va suivre une formation, je dirais, tout à fait classique. Et ce qui est étonnant, c'est que probablement c'est le déplacement géographique et le voyage à Paris qui va faire remonter une langue natale, une langue secrète. Mais c'est comme s'il avait fallu ce déplacement dans l'espace pour que quelque chose d'intérieur puisse surgir. On a peut-être toujours probablement plus de liberté quand on est loin de la terre-mère.
Le mot terre-mère, d'ailleurs, ouais, lui correspond très bien parce que c'est vraiment sur la maternité de la terre, sur sa puissance génétique et généalogique comme ça qu'il intervient.
En fait, c'est vraiment une, je dirais, un corps à corps, si j'ose dire, avec le féminin dans son ambiguïté, parce que c'est à la fois matriciel et c'est en même temps, il y a une part, je dirais, d'érotisation, pour ne pas dire profondément sexuelle, dans ce, dans cette, dans ce corps à corps. Donc, il y a une ambiguïté foncière. Et je pense que ça rencontre l'ambiguïté du symbolisme. Et parce que le, peut-être le hasard fait bien les choses, ou l'inconscient, je ne sais pas, mais lorsqu'il arrive à Paris, il s'installe boulevard Arago, et il se trouve qu'il va se trouver dans ce couvent artistique où, au fond, la plupart des grands symbolistes français sont à l'œuvre.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cité fleurie, n'est-ce pas ?
Exactement.
Hein, c'est un petit groupe de maisons très charmant, avec un, effectivement, très, très nature.
Dans lesquelles on ne peut malheureusement pas rentrer, parce qu'il y a un code, mais ça continue d'être des ateliers d'artistes. Et quand Jacobsen s'installe là, il a vraiment... Alors, il va faire venir, en fait, en plus, toute une colonie d'artistes danois, de copains, d'amis qui vont voisiner, mais il se trouve qu'il est le voisin d'atelier de Jean Cariès. Il se trouve que dans la cité fleurie, l'un des compagnons de Daniel de Manfred, qui est vraiment le compagnon de Gauguin, a lui-même un atelier, donc on est à peu près sûr que lorsque Gauguin était à Paris, il est venu à la cité fleurie. Je ne dis pas que Jacobsen l'a rencontré. Mais voilà, on est dans cette espèce de matrice. Il y a Grasset aussi, qui est un des pères du de l'art nouveau, qui est là. Donc, en fait, il est vraiment à l'endroit où ça se passe.
Parce que donc Paris à ce moment-là, donc il y a la partie, je dirais, impressionniste et post-impressionniste d'une part. Il y a Gauguin qui devient peu à peu une figure mythique à la recherche d'un primitif lointain, n'est-ce pas ?
Gauguin est le père de tout, parce qu'il est à la fois le père du primitivisme, ça c'est sûr, et il est en même temps le père du symbolisme, ça c'est certain aussi. Donc il y a cette présence tutélaire qui impressionne tout le monde.
Alors il y a un symbolisme très intellectuel, qui est le symbolisme malarméen, si je puis dire, hein, donc un symbolisme de l'absence d'objets, de la dématérialisation totale, et il y a un symbolisme qui va ensuite se transformer vers l'art nouveau, et qui est un symbolisme beaucoup plus incarné, beaucoup plus charnel, qui est pris dans les spasmes de la forme.
C'est vrai, mais en même temps, dans le symbolisme, il y a toujours au fond une ambiguïté assez malarméenne, c'est qu'au fond, la construction plastique est toujours là pour dire autre chose que ce qu'elle montre. Le trouble du symbolisme, c'est que, me semble-t-il, c'est que c'est toujours une sorte de transfert ou de déplacement. Les formes ne sont là que pour évoquer d'autres formes qu'on ne peut pas voir et pour dire ce qu'on ne peut pas dire.
Oui, c'est la résonance de la forme, en fait, qui compte.
Oui, et la résonance de la forme qui renvoie peut-être à un matériau psychique éminemment, vous disiez tout à l'heure, organique, inquiétant, asphyxiant, vertigineux, aquatique. Tous les règnes sont mélangés.
Alors, quand on rentre dans l'exposition, il y a des portraits de Jacobsen, on voit que son environnement, son entourage a remarqué que c'était une personnalité intéressante. Et puis, on arrive, après quelques figures très fortes, comme Redon, dont on reparlera plus tard, et puis quelques céramistes, dont on reparlera très, très précisément dans quelques instants, on arrive sur La Petite Sirène. Alors, si vous voulez bien, cher Jérôme, c'est comme nous avons la chance d'avoir avec nous Emmanuel Lemire, notre comédien, vous voulez bien nous lire le moment où la petite sirène d'Andersen, parce qu'Andersen est une figure considérable, 50 ans avant,
fondamentale
pour tout le monde nordique, mais aussi pour toute l'Europe.
Pour toute l'Europe.
Un personnage très étrange d'ailleurs, hein, très singulier, très, très bizarre.
On pourrait même dire peut-être très névrosé, en fait.
On peut dire très névrosé, mais de toute façon, la névrose est quasiment un principe de construction de l'époque.
Mais si on arrive à la transfigurer, c'est magnifique.
Voilà, et c'est son cas. Et donc, nous allons accompagner Andersen et la petite sirène malheureuse qui va traverser, effectivement, des mondes sous-marins inquiétants pour aller vers la sorcière.
Il lui fallut traverser ces tourbillons fracassants pour pénétrer dans le domaine de la sorcière. Et là, sur une longue distance, il n'y avait pas d'autre chemin que celui qui passait au-dessus de la vase chaude et bouillonnante que la sorcière appelait sa tourbière. Sa maison se trouvait derrière, au milieu d'une étrange forêt. Tous les arbres et les buissons étaient des polypes, mi-bêtes, mi-plantes. On aurait dit des serpents à 100 têtes qui poussaient du sol. Toutes les branches étaient de longs bras visqueux aux doigts comme des vers flexibles qui remuaient de la racine à l'extrémité. Tout ce dont ils pouvaient s'emparer dans la mer, ils s'enlaçaient autour et ne le lâchaient plus. La petite sirène fut tout effrayée en arrivant dans cette forêt. Son cœur battait d'angoisse. Pour un peu, elle aurait fait demi-tour. Mais alors, elle pensa au prince et à l'âme humaine. Et elle prit courage. Elle attacha fermement ses longs cheveux flottants autour de sa tête pour que les polypes ne l'attrapent pas par là. Elle joignit les mains sur sa poitrine et s'envola, comme le poisson vole à travers l'eau, parmi les affreux polypes qui tendaient vers elle leurs bras et leurs doigts flexibles. Elle vit comme chacun tenait quelque chose qu'il avait attrapé. Des centaines de petits bras le maintenaient comme de solides liens de fer. Des naufragés, qui avaient sombré jusqu'en ces profondeurs, apparaissaient, squelettes blancs, dans les bras des polypes. Ceux-ci étreignaient des gouvernails, des squelettes d'animaux terrestres, et, ce qui fut presque le plus épouvantable pour elle, une petite sirène qu'ils avaient capturée et étouffée.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de l'exposition Les Contes étranges de Niels Hansen Jacobsen, du nom de ce grand sculpteur de la toute fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, dont il y a une exposition qui est une sorte de révélation pour beaucoup d'entre nous au musée Bourdel. Et je suis avec Jérôme Godeau. Et quand nous entendions Jérôme Emmanuel Lemire nous lire ce passage d'Andersen, je vous voyais lever les yeux et vous disiez peut-être quand même pas pour des enfants.
Mais c'est un conte terrible. Et moi, je me souviens que quand j'étais enfant, ça me jetait dans des angoisses, parce qu'au fond, elle va perdre sa voix, elle va subir... À chaque pas que tu feras, c'est comme si tu marchais sur des couteaux tranchants. Et tout ça pour tenter de gagner l'amour du prince, à travers lequel elle doit gagner une âme immortelle. C'est un conte absolument déchirant, et on se dit, mais est-ce que vraiment l'accès au spirituel passe par toute cette... Cette déchirure, c'est un conte tout à fait tragique.
Alors, tragique, mais quand on voit la sculpture que Jacobsen en a fait, c'est aussi un conte incroyablement sensuel, parce que vous avez cette jeune fille voluptueuse et cambrée, comme ça, qui est assise sur son polype.
Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, dans le conte d'Andersen, il y a quelque chose de très voluptueux et sensoriel dans ce monde aquatique, mouvant, ondulant, berceur. Ça, c'est une des caractéristiques, je dirais, de l'eau féminine, quand Bachelard parle de l'eau féminine.
Parce que Bachelard est quand même, c'est vrai, à cette époque-là, dans les rêveries,
absolument,
on est exactement dans ce climat d'imaginaire, de comment se crée l'image intérieure, en fait.
Absolument, et c'est cette espèce de bercement qui fait que le mouvement, comme vous le disiez très justement, cette petite sirène, à la fois, on semble que cette queue de poisson qui semble vraiment comme une concrétion au milieu d'un massif de corail, et puis vous avez dans le même temps cette chevelure qui monte et qui s'envole. D'ailleurs, initialement, Andersen voulait appeler son conte « La fille des airs ». Elle est devenue, en définitive, la fille des mers, mais il y a une sorte d'ambiguïté autour de l'arabesque, parce que c'est aussi bien une plongée qu'une élévation. Et on est toujours dans cette espèce de double jeu.
Vous avez raison, c'est la plongée, c'est on va vers le très bas pour aller vers le très haut. On est entre c'est la sublimation.
C'est
la définition même de la sublimation, en fait, non ?
Il me semble
aussi. Mais vous avez l'air d'insister, je le lisais d'ailleurs dans les textes du catalogue, sur l'eau qui est un des grands thèmes du moment.
C'est un thème fondateur parce que l'eau, ne serait-ce que justement, l'eau est totalement assimilée à l'archétype féminin. Le féminin serait liquide, le féminin serait ondoyant. Or, il me semble que le symbolisme, c'est quand même une interrogation autour des origines. Et du coup, cette interrogation autour des origines amène nécessairement à se pencher, si j'ose dire, sur l'origine du monde. Et je pense que le féminin et le symbolisme ont vraiment partie liée autour de cette figure de l'arabesque, du mouvant, et comme vous le disiez très justement, ce qui peut être à la fois une plongée et une élévation. Parce que dans l'arabesque, vous n'avez ni début ni fin. Donc, vous pouvez aussi bien l'imaginer vraiment comme quelque chose, comme une eau berceuse, ou au contraire, comme une eau qui va vous aspirer et vous dévorer. Et on est toujours dans cette espèce de d'ambiguïté-là. Ce qui pour les artistes, est, je veux dire, la matière donc peut exprimer les deux à la fois.
Alors, effectivement, nous avons dans l'exposition comme première grande œuvre de Jacobsen, cette petite sirène, petit corps blanc, en quoi, en terre ?
En plâtre.
En plâtre.
Très... Avec le souvenir de Carpeau, certainement. Parce que Jacobsen a
surtout
a vu
dans
Carpeau.
Le traitement de la chevelure, oui, on voit vraiment façon que Carpeau avait de traiter aussi les chevelures. Elle est donc assise sur son massif de corail. Elle est très belle, elle est assez grande. Elle doit faire 1m20, 1m30 à peu près. Et c'est déjà une saisie parce qu'elle est entourée. Elle est évidemment entourée de menaces, de personnages, de goitres, de bizarreries de la nature.
Elle est entourée par la sorcière en plomb. Dont la lecture nous a donné cette espèce d'image de l'antre de la sorcière, donc on voit la sorcière monstrueuse, et puis on voit les céramiques de Jacobsen comme des espèces de concrétions très étranges. Hein.
Alors il faut dire que, pour vous contredire sur un point, si vous me permettez,
mais je vous en prie.
Il n'y a pas que le féminin comme expression de l'eau, il y a aussi une fascination, c'est pas pour vous contredire, c'est peut-être pour compléter, c'est... de la science à ce moment-là.
Bien sûr.
Il y a les premières découvertes des corps minuscules, il y a tout ce que l'on connaît.
Mais vous évoquiez Redon tout à l'heure, il est certain que toute la rêverie des origines, dans les noirs d'Odilon Redon, on a vraiment cette matière, je dirais, scientifique.
Et ces monstres viennent un peu de ces abysses-là.
Oui.
Alors je vous propose que nous écoutions, Emmanuel, si vous voulez bien nous lire ce passage de « À soi-même » de Odilon Redon, où il parle justement de son amitié avec le fameux Clavaux, qui sera une sorte de maître scientifique pour soutenir ses rêveries. Écoutons-le.
J'étais aussi lié d'amitié avec Armand Clavaux, botaniste qui fit plus tard des travaux de physiologie végétale. Il travaillait dans l'infiniment petit. Il cherchait, je ne sais trop vous dire, sur les confins du monde imperceptible, cette vie intermédiaire entre l'animalité et la plante. Cette fleur ou cet être, ce mystérieux élément qui est animal durant quelques heures du jour et seulement sous l'action de la lumière. Clavaux était extraordinairement doué. Nature de savant autant qu'artiste, ce qui est rare, toujours apitoyé sur les révélations du microscope, toujours à ses collections d'herbiers qu'il visitait, soignait et classait sans cesse, il s'adonnait encore avec passion à la lecture et à des recherches littéraires avec une érudition éclairée. Ainsi, il avait pu former dans le silence, les difficultés et l'isolement de la vie de province une bibliothèque qui ne comptait que les chefs-d'œuvre, ceux des littérateurs de tous les temps. Il me parlait des poèmes hindous, qu'il admirait et adorait par-dessus tout, et qu'il se procurait onéreusement, en s'imposant des privations dans sa pauvreté. Très avisé, il était au courant de tout. Lorsque parurent les premiers livres de Flaubert, il me les désignait déjà avec clairvoyance. Il me fit lire Edgar Poe et Baudelaire, Les Fleurs du Mal, à l'heure même de leur apparition. Il professait pour Spinoza une admiration quasi religieuse. Il avait une manière de prononcer ce nom avec une sensibilité et une douceur dans la voix qu'on ne pouvait entendre sans émotion.
Et effectivement, on sent le climat littéraire autour de ça.
Complètement. Et on sent en même temps l'hybridation, c'est un texte magnifique.
Oui, c'est un texte magnifique. Et alors, dans l'exposition, c'est une des merveilles d'exposition, c'est que il y a cette personne centrale, évidemment, de Jacobsen, que nous redécouvrons grâce à vous, mais il y a ces connotations et les redons que vous avez obtenus sont incroyables.
Ça, c'est vraiment la générosité du Petit Palais et de la Bibliothèque Nationale.
Et d'Orsay.
Et d'Orsay, bien sûr. Et effectivement, les noirs de l'île en Redon, c'est vraiment comme un infusoire, une espèce de matrice d'où surgissent ces êtres hybrides. On ne sait pas très bien si ce sont des visages, si ce sont des paramécies, si ce sont des algues, mais il y a ce bouillonnement-là. Et l'exposition, effectivement, tourne autour de l'hybridation en même temps.
Alors, c'est assez curieux, cette fascination pour les monstres à l'époque. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, on va... Parce que... Il y a un côté, évidemment, Redon, à juste titre, et nous les rencontrerons encore dans notre promenade aujourd'hui, parle d'Edgar Poe, et on sent bien le climat littéraire dans Baudelaire, bien sûr, etc. Mais il y a un qui est quasiment prévu, c'est Lovecraft,
bien sûr.
N'est pas encore là, mais non, qui viendra.
Qui viendra, mais je me demande en même temps si ces monstres, c'est pas aussi la découverte d'une... je dirais, d'une ambiguïté psychique. Est-ce que c'est pas aussi le début d'un travail où tout à coup on va se pencher sur la psyché et s'apercevoir qu'il y a des forces au travail qui sont, et en soi-même, qui ne sont pas nécessairement maîtrisables et qui ne sont pas nécessairement avouables et qui sont en même temps fondatrices.
Moi, je vous entends parler là de la découverte simultanée au fond de ces monstres et de l'inconscient.
Oui, parce que puisque au fond, si le symbolisme est le lieu du transfert, plastiquement, la psychanalyse, qu'est-ce que c'est d'autre aussi que le travail sur le transfert? C'est-à-dire, puisque tout est signe de quelque chose d'autre. Je me demande si on n'est pas, on tourne en tout cas autour de cette question-là.
Alors, je vais vous entraîner, si vous me permettez, Jérôme Godeau, vers quelqu'un que vous aimez et dont vous avez souligné tout à l'heure c'était très éclairant, l'influence, et on la décrira plus précisément parce qu'il y a une influence de monde, de milieu, mais aussi de technique, Gauguin. Or, Gauguin nous dit « Je ne vois pas en quoi Odilon Redon fait des monstres ». C'est ça, c'est très intéressant. Et Emmanuel Lemire, ça vous embête pas de nous lire cela ?
Au contraire.
Je ne vois pas en quoi Odilon Redon fait des monstres. Ce sont des êtres imaginaires. C'est un rêveur, un imaginatif. De la laideur, question brûlante et qui est la pierre de touche de notre art moderne et de sa critique. À bien examiner l'art profond de Redon, nous y trouvons peu la trace du monstre, pas plus que dans les statues de Notre-Dame. Certes, des animaux que nous ne voyons pas ont l'aspect de monstres, mais par cette tendance à ne reconnaître comme vrai et normal que la majorité habituelle. La nature a des infinis mystérieux, une puissance d'imagination. Elle se manifeste en variant toujours ses productions. L'artiste lui-même est un de ses moyens, et pour moi, Odilon Redon est un de ses élus pour cette continuation de création. Les rêves, chez lui, deviennent une réalité par la vraisemblance qu'il leur donne. Toutes ces plantes, êtres embryonnaires, essentiellement humains, ont vécu avec nous. Assurément, ils ont leur part de souffrance. Dans une atmosphère noire, on finit par apercevoir deux troncs d'arbres. L'un d'eux est surmonté de quelque chose. Vraisemblablement, une tête d'homme. Avec une logique extrême, il nous laisse le doute sur cette existence. Est-ce véritablement un homme, ou plutôt une vague ressemblance? Quoi qu'il en soit, ils vivent tous deux sur cette page. Inséparables tous deux, supportant les mêmes orages.
Voilà un extrait de la lettre magnifique de Gauguin à Émile Bernard. Incroyable.
Magnifique, magnifique. Et il y a tout ce matériau onirique, justement, et ce matériau de l'ombre qui fait surgir au fond des créatures qui sont des créatures réelles.
Mais qui sont plausibles.
Qui sont plausibles, mais c'est la réalité du psychisme aussi. Vraiment, il y a une objectivité dans le surgissement du rêve. C'est une matière première dont qu'il s'agit d'extraire.
Alors Gauguin, dans ses tableaux, montre, ne serait-ce que dans les reflets de l'eau qui prend des couleurs orangées et bleues, pétrole presque, incroyable, il montre la rêverie en train de se construire, la forme en train de devenir une autre forme, la métamorphose.
La métamorphose toujours, et principalement, parce qu'il y a ça beaucoup chez Gauguin, dans ce jeu des couleurs, ce jeu des arabesques, ce jeu des courbes, de la forme qui ne cesse d'en devenir une autre. Et là encore, au fond, Gauguin est le père de tout, parce qu'il est à la fois le père du primitivisme, il est le père du symbolisme, et à travers lui, il y a même l'avènement potentiel, je dirais, d'une abstraction. En fait, il a tout exploré, et c'est une figure à la fois immense, ça on le savait, mais qui a eu une influence considérable à la fois sur les écrivains, et sur les artistes et sur les peintres. En fait, c'est vraiment un géant.
Alors, Gauguin est très proche de cet univers. Je rappelle, et vous allez nous en parler, qu'un des éléments de l'exposition qui est très intéressant, c'est de voir toutes les céramiques, évidemment. Ces crapauds luisants, ces tavelures, ces boursouflures incroyables.
Lorsque Gauguin, d'ailleurs, parle de la beauté, de la laideur, ce qui est passionnant, c'est de voir comment les artistes subvertissent, au fond, les catégories à la fois du naturel et du beau pour faire surgir quelque chose qui fait signe à une autre forme de beauté. Mais il est vrai que Gauguin s'est adonné à la céramique, hein, avec dans l'atelier de Chapelet.
Et Chapelet qui était assez voisin, je pense.
Qui avait son atelier, si j'ai bonne mémoire, rue Blomet. Et en fait, Cariès, on est certain que Cariès a vu les céramiques de Gauguin chez Chapelet. Je vous rappelle que la première femme de Gauguin était danoise. Gauguin lui-même était un lecteur assidu des contes d'Andersen. Et donc, Jacobsen, finalement, retrouve là des racines. À la fois, c'est nouveau et en même temps, c'est profondément son monde.
C'est son monde. Et oui. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire chez Gauguin, c'est sa céramique, effectivement. Vous parlez de Cariès, il faut quand même que vous disiez un petit peu qui c'est, parce que c'est un immense sculpteur qui, à l'époque, était considéré comme un géant. Et d'ailleurs, la famille a donné, je crois, 150 ou 200 œuvres au musée du Petit Palais, qui sont sublimes.
Qui sont sublimes et dont on voit quelques pièces maîtresses aujourd'hui à Bourdelle grâce à la générosité de Christophe Le Ribaud et de l'équipe du Petit Palais. Il est vrai que Cariès, quand on voit à la fois c'est un sculpteur admirable et ce jeu des émaux de l'émaillage avec ses lapis lazuli, ses bleus, ses bronzes, ses ors, ces créatures à la fois monstrueuses, pustuleuses et en même temps sidérantes, quand on est face à ça, au fond, on en perd un peu ses mots. Oui. On ne sait pas très bien ce qu'on voit, on est à la fois capté, et c'est vraiment une plongée. Je pense qu'une des réussites de cette exposition, grâce aussi en partie à Cécile de Gauss, qui est une formidable scénographe, c'est qu'on est vraiment dans une sorte d'univers matriciel, mi-organique, mi-fluide, et on est un peu estomaqué, en fait.
Alors, Cariès découvre vers 1875, lors de l'exposition universelle, les œuvres des Japonais.
Les grès émaillés japonais. Et ça va être une
révélation. Et ça change l'art en France.
Complètement.
Que ce soit l'art des Danois ou des autres, ça change l'art.
Ça change l'art parce que ça change aussi la notion même d'esthétique, la notion même de perfection de la forme. Et dans ces formes qui peuvent être asymétriques, dans ces coulées, dans ces couvertes, dans ces jeux, dans ces éclaboussures, une autre approche de la beauté est en train de naître.
Vous pouvez nous dire sommairement ce que c'est que le grès, comment ça se fait, pourquoi c'est si beau.
C'est un peu compliqué, mais le grès, en fait, il y a deux cuissons. Parce qu'une fois que vous avez modelé votre terre, elle est cuite, c'est ce qu'on appelle un biscuit, et c'est incolore, c'est blanc. Et ensuite, vous allez, il y a une deuxième cuisson, tout ça à 1300 ou 1400 degrés, hein. Il y a une seconde cuisson où vous travaillez un peu à l'aveugle parce que vous la recouvrez avec divers matériaux qui vont créer cet émaillage. Et c'est un peu un jeu avec le feu parce que il y a une part de hasard là-dedans. Donc vous ne savez pas, en fonction des coulées et des températures que vous allez avoir, vous ne pouvez pas complètement maîtriser le résultat final. Alors, quelqu'un comme Cariès, il y a une telle habileté, il y a un tel génie qu'on a l'impression que tout est tout le temps maîtrisé. Alors que quand on voit les céramiques de Jacobsen, c'est beaucoup plus... c'est moins maîtrisé, c'est plus organique, c'est plus improbable parce que toutes les formes sont plus ou moins cabossées. Ça s'appelle peau, ça s'appelle coupe, mais je mettrais qui que ce soit au défi de savoir ce qu'on a sous l'œil. On a une inquiétante étrangeté, en fait.
On a une inquiétante étrangeté parce qu'on a l'impression que la Terre continue son action, que ça oui. bubonne, que ça continue à fleurir d'une certaine façon.
C'est une alchimie, il y a un caractère un peu viscéral là-dedans.
Alors, il y a, quand on continue notre exposition, un moment incroyable, c'est quand on voit quand même apparaître le fameux Troll, qui est une œuvre très célèbre.
Troll qui flaire la chair de chrétien.
Oui, et donc c'est une lutte entre les animistes et les chrétiens, entre les contes traditionnels. Et...
En tout cas, il est certain que c'est le...
Ou c'est un diable, tout simplement.
C'est beaucoup de choses à la fois, j'ai l'impression. Parce que le troll, si j'ai bien compris, dans la mythologie danoise et la mythologie nordique, c'est cette créature mi-bête, mi-homme, avec des serres, avec des pieds palmés, avec une queue qui est cachée dans l'anfractuosité des rochers ou dans les forêts et qui enlève les femmes et les enfants pour les dévorer. Donc, c'est probablement, là, il y a une forme d'animisme, comme vous le disiez, en tout cas de paganisme très immémorial qui ressurgit. Et pour la petite histoire, ce qui est curieux, c'est que cette œuvre a été achetée par Jacobsen a été soutenue par un brasseur qui s'appelait Carl Jacobsen, qui est le fondateur de la bière Carlsberg. Et c'est lui qui a acheté ce monument pour le mettre sur le mausolée familial pas très loin de l'église. Alors je crois qu'il y a eu des négociations un peu difficiles avec le pasteur parce que ce troll qui a une pince à trois doigts, c'est comme une espèce de pied de nez à la trinité du christianisme. Donc c'est très curieux. Puis c'est un masque absolument terrifiant. Et là aussi, parce que Jacobsen travaillait c'est un modeleur, mais par élimination. C'est pas en ajoutant, c'est en enlevant. Donc la manière dont c'est sculpté, quand on voit ce corps et ses bras et ses jambes, on a l'impression que ce sont des troncs d'arbres qui sont évidés. Et au bout de ce corps improbable, vous avez cette trogne qui est à moitié un masque japonais et à moitié un masque de gargouille. Parce qu'on est sûr, là Jacobsen l'a dit lui-même, qu'il a vu les gargouilles que Viollet-le-Duc a inventées.
Les fameuses gargouilles de Mérion.
Oui, en fait, et c'est Mérion qui...
Le sculpteur.
C'est Mérion, effectivement, qui a fait la célébrité du fameux Strige. Mais ça, c'est une rêverie, je dirais, romantique de Viollet-le-Duc, qu'il a imaginée à partir de la lecture de Victor Hugo. Donc on voit bien aussi le jeu, comme vous disiez très justement, de l'entremêlement du littéraire et du plastique.
Immortalisé par la photographie, en l'occurrence, hein, qui est très importante à cette époque et qu'on regarde de très près.
Voilà. Exactement. Et effectivement, ce Strige qui sera photographié d'abord par Charles Nègre, qui est la photographie iconique, et ensuite par Brassailles. Et donc, la photo voilà. de Brassailles est
et
dans
ensuite,
l'exposition.
Ensuite, par Jeff Wall, bien des années plus tard.
Absolument.
Voilà. Et donc, là, on vient de parler de ce terrible, parce qu'il est installé très haut dans l'exposition. Il est placé sur une sorte de plateforme à 1m10 de hauteur, et puis lui-même fait sans doute 1m ou 1m10 encore, donc il est assez haut, il est très horizontal, il est tendu vers sa proie.
Qui menacent d'ailleurs les visiteurs, hein, ont toujours une espèce de sursaut quand ils entrent dans la pièce, parce ouais. qu'il est vraiment... Oui, et puis en plus, les éclairages sont faits de telle sorte qu'on a des ombres partout, il est vraiment démoniaque, oui.
Et les enfants sont absolument fascinés, hein, ils adorent. J'ai vu les petits groupes d'enfants écouter les contes des visiteurs, c'était super. Et je voulais vous dire que lorsqu'il s'est réinstallé au Danemark, la ville qu'il avait soutenue avant, le soutient après, se fait une souscription pour lui installer son extraordinaire atelier là. Et il y a la fontaine avec le troll au-dessus. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe.
Ça, c'est très, très beau. Et alors, en plus, quand il fait très froid et qu'elle est gelée, ça, c'est magnifique parce qu'on a vraiment une créature qui est... C'est l'hybridation dont on parlait superbement tout à l'heure, Hérodon et Gauguin. On est vraiment dans une sorte d'intermonde.
Oui, parce qu'on voit l'œuvre en train de se transformer par les forces de la nature. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui est très, très juste. Alors, dans l'exposition, il y a ce troll et il y a autre chose de très inquiétant, on va y venir, mais sur le chemin, on a la méduse. Il y a la méduse parce qu'elle fait partie de ces êtres qui appartiennent au liquide et à la mythologie.
C'est une figure fondatrice, elle aussi.
Alors vous avez obtenu un prêt magnifique de quelqu'un d'influent. Ça, je veux dire, quand je dis quelqu'un, d'un artiste, le prêt d'une œuvre d'un artiste influent. Non,
oui.
Vous pouvez dire quelque chose là-dessus ?
Alors c'est le fameux bouclier de Böcklin, qui était un artiste symboliste suisse, avec cette méduse. C'est du papier mâché d'ailleurs, et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, c'est la méduse décapitée, hérissée de serpents, et qui est elle-même fascinée comme si elle assistait en fait à sa propre décollation. Et là, on retrouve vraiment, puisque le masque de la méduse, hein, de la gorgone, c'est ce que les Grecs mettaient au fronton des temples, c'est ce qu'il y a sur le bouclier d'Athéna. Et c'est à la fois, je crois que c'est un double tabou, c'est la méduse pétrifie, c'est à la fois la pétrification devant le surgissement de la mort, et probablement c'est le questionnement sur l'origine et probablement sur le secret de la sexualité. Donc là, il y a une espèce d'accord entre Eros et Thanatos indicible et pétrifiant.
Alors, c'est aussi probablement une citation du Caravage.
Bien sûr.
Il y a le fameux tableau qui est une illusion, puisqu'il y a une incurvation très particulière de la surface du tableau de Caravage, c'est très célèbre. Et il y a, je voulais vous faire entendre, si vous vous sentez prêt, cher Emmanuel Lemire, je voulais vous faire entendre un petit extrait d'un texte qui est dans un des textes d'introduction de Jean Clair sur son livre La Méduse, justement. Méduse.
La méduse, à l'origine, incarne l'horreur. Selon ses premières évocations, qu'on trouvera dans les textes dès le début du 8e et dans la plastique dans la seconde moitié du 7e siècle, sa vision est insupportable à l'œil humain. Son faciès, presque toujours en vue frontale, révèle des traits qui sont à l'origine masculins. La barbe, les sourcils, les verrues. Pourtant, elle se transforme, elle s'adoucit, elle se féminise. Et au milieu du 5e siècle, elle devient une adorable et séduisante personne. Ces deux aspects, comme une illusion d'optique à double lecture, va perdurer à travers les siècles qui vont suivre, trahissant sa double nature. Ainsi en est-il des pouvoirs que la légende des dieux lui attribue. Mortifère, elle est tout aussi bien bénéfique. Elle participe, comme les anges, de deux ordres, de deux sexes et de deux mondes. Thanaturge et thaumaturge, d'outre-monde et de celui-ci. Elle unit en elle ce que le conte de fées dissocie. Elle est la belle comme elle est la bête. Elle est tout entière liée à la fonction de l'œil, au regard. Elle fascine, elle attire, elle terrifie, elle tue. Mais sa magie démoniaque, c'est celle aussi qu'on attribue, dans le langage populaire, aux sentiments amoureux. Elle a l'œillade assassine, à la mesure de la séduction qu'elle exerce.
Vous écoutez L'art et la matière, et nous sommes sur France Culture et nous parlons de l'artiste Jacobsen et de tout ce qui entoure cette étrange scène des années 90 en France à l'occasion de l'exposition Les Contes étranges de Niels Hansen Jacobsen au musée Bourdel. Et nous venons d'entendre un commentaire de la Méduse parce qu'il y a ce fameux tableau de Böcklin que vous avez obtenu, magnifique, et qui nous amène vers des zones de plus en plus terribles dans lesquelles il y a des visages que j'ai trouvé fantastiques, en particulier un visage de Bourdel qui pourtant n'a pas connu Jacobsen.
Non, Bourdel n'a pas connu Jacobsen, mais d'abord ils ont exposé dans les mêmes endroits. Il y a une veine symboliste qui est réelle chez Bourdel, puisqu'il a exposé à la Rose-Croix, il a exposé à la Closerie des Lilas. Il y a une pente symboliste foncière chez Bourdel. Et c'est vrai que le grand masque tragique de Beethoven est une œuvre absolument fascinante. Et ce masque, on a l'impression qu'il est presque en train de se décomposer. On ne sait pas si la matière est en train de se former ou si au contraire elle se décompose. Et il y a comme ce visage qui est comme en proie à une sorte de méditation douloureuse. Et on ne sait vraiment pas. Il y a une dualité, il y a une ambiguïté. Et dans le texte magnifique qu'on vient d'entendre, on comprend bien qu'il y a une espèce d'ambivalence foncière. Il y a un renversement toujours potentiel. On hésite entre ces formes qui pourraient s'ouvrir, se développer, et qui sont des appels à la sensualité, et en même temps cette angoisse de la dévoration. Jean Clair est un admirable esprit.
Et donc il y a aussi une autre tête qui nous conduit au sujet d'après, qui est une tête de Bourdelle aussi, que j'adore, la nuit vue de face, si je puis dire, et où tout d'un coup, le visage est effrayé, la main recouvre une partie du visage, les orbites sont creux, et c'est l'ombre des orbites qui crée la nuit, qui rentre dans le visage. Je ne connais pas d'image plus forte de l'angoisse.
C'est vraiment une... C'est une image de l'angoisse ou c'est une image du trouble du rêve? Est-ce que c'est une image de la descente dans le psychisme? Alors, parce que c'est comme une espèce de chouette en même temps. Alors, tout part de ce marbre magnifique qui s'appelle Le jour et la nuit, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et à partir de ce marbre, Bourdelle va extraire, puisque le marbre, je rappelle à nos auditeurs, il y a cette figure de jeune homme beau comme le jour, et derrière lui, il y a une sorte émergeant de la gangue du marbre, il y a une sorte de nuit un peu incertaine avec une main qui agrippe l'épaule du jeune homme. Et Bourdelle va libérer, si je puis dire, cette nuit, et on la voit à la fois de face et de profil. Et comme vous le dites très justement, cette nuit est un... Là aussi, on ne sait pas très bien si le bronze est en train de couler, de se décomposer, ou si au contraire, c'est une espèce de chouette qui serait animé comme ça d'un savoir nocturne un peu...
Moi, en le voyant, j'étais un peu angoissé quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, et j'ai failli laisser ma peau. Comme...
Écoutez, on est heureux que ce ne soit pas le cas.
Comme c'est arrivé quelques instants plus tard, lorsque j'ai vu cette sculpture stupéfiante, et j'aimerais que vous nous la décriviez longuement, qui s'appelle « L'ombre ».
Alors ça, c'est
une sculpture de Jacobsen.
Oui, c'est une sculpture de Jacobsen qui est grosso modo à peu près contemporaine des recherches de Bourdelle. Et ça, c'est une œuvre absolument saisissante parce que vraiment pour le coup, en plus elle est placée très bas et c'est une espèce. On ne sait pas si c'est un rayon, si c'est une pieuvre, si c'est ces circonvolutions et ces circonférences du bronze qui s'enroule et qui se déroule. C'est vraiment l'ombre qui finalement s'est affranchie du corps dont elle était la projection et qui va dévorer en quelque sorte son propriétaire. D'ailleurs, elle a une espèce de tête de mort et quand on la voit, elle est proche et bien sûr de la photographie de Brassailles du Strige, on voit bien, on est vraiment, je dirais, c'est la transition entre le symbolisme et l'art nouveau. Il y a un texte fascinant de Dali qui parle de la beauté cannibale de l'art nouveau. Je pense que ces espèces de circonvolutions ou de circonférences ou d'arabesques là fondues en bronze, c'est une œuvre. On peut pas vraiment dire que ce soit beau, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant et cet enlacement, là aussi, dit quelque chose, je pense, de la plongée dans les abysses. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle tient un sablier. Et moi, je me demande si ça ne dit pas d'une certaine façon qu'il y a le temps, mais que sous le temps, il y a ce matériau des origines et que finalement, sur ces origines-là, le temps n'a pas de prise. C'est-à-dire qu'au fond, les pulsions premières qui nous habitent sont les mêmes que celles des hommes des cavernes et le temps ne fait rien à l'affaire. Et je crois que...
C'est pour ça que le temps est mis derrière.
Il est mis derrière parce qu'en fait...
Vous avez cette sorte d'ectoplasme qui rampe et qui se métamorphose.
Oui, et parce que c'est en dessous et ce qui est en dessous continue d'être agissant pour chacun d'entre nous. Et finalement, nous avons tous des téléphones cellulaires, mais pour ce qui est des pulsions, nous sommes absolument similaires aux hommes des cavernes.
Oui, pour l'intelligence et la créativité, j'espère aussi, mais c'est pas sûr.
Non, c'est
que je les admire beaucoup. Alors, l'ombre, c'est un conte d'Andersen également, qui est magnifique, et c'est l'histoire d'un savant qui habite devant une maison mystérieuse, et de temps en temps, selon l'orientation du soleil ou de la lune, son ombre est portée jusqu'à cette maison qu'il rêve d'explorer. Un jour, il demande pour rire à son ombre d'aller se glisser sous la porte de cette maison fleurie où parfois apparaît une jeune femme, qui est une sorte de métaphore de la maison de la poésie, de la beauté absolue, de ce que recherche l'artiste.
Du désir.
Du désir aussi, bien entendu. Et l'ombre ne revient pas. Écoutons, Emmanuel, si vous voulez bien, écoutons Andersen.
Un soir, l'étranger était sur son balcon. À l'intérieur, derrière lui, brûlait la lumière. Il était donc tout à fait naturel que son ombre passât jusqu'au mur d'en face. Et même, elle était juste au-dessus des fleurs du balcon. Quand l'étranger bougeait, l'ombre remuait aussi. C'est une chose qu'elle fait. Je crois que mon ombre est la seule chose vivante que l'on voit là-haut, dit le savant. Comme elle se tient gentiment parmi les fleurs, la porte est entrebâillée, l'ombre devrait avoir l'astuce de passer à l'intérieur, de regarder autour d'elle et de revenir me raconter ce qu'elle a vu. Oui, tu te rendrais utile, dit-il en plaisantant. Pénètre à l'intérieur, s'il te plaît. Eh bien, tu y vas ? Et il fit un signe de tête à l'ombre, et l'ombre le lui rendit. Bien, va, mais ne reste pas. Et l'étranger se leva, et son ombre, sur le balcon d'en face, se leva aussi. Si quelqu'un avait fait attention comme il faut, il aurait pu voir nettement que l'ombre entrait par la porte entrouverte du balcon au moment précis où l'étranger entrait dans sa chambre en laissant retomber derrière lui le long rideau. Le lendemain matin, le savant sortit prendre son café et lire les journaux. « Quoi ?» dit-il en arrivant au soleil. « Mais je n'ai pas d'ombre. Alors elle est vraiment partie hier soir et n'est pas revenue. Voilà qui est bien ennuyeux. »
Nous venons d'entendre donc un extrait du début du conte d'Andersen qui se termine tragiquement parce que l'ombre revient et le savant devient peu à peu l'ombre de son ombre. Voilà.
C'est une très mauvaise idée de congédier son ombre.
Jérôme Godot, merci.
C'est une très très mauvaise idée.
Nous ne nous y risquerons pas. Et donc ça correspond à une veine tragique qui a commencé dès que Jacobsen est arrivé, puisqu'en 1892, une des premières œuvres qu'il présente, c'est La mer et la mort.
Mais effectivement, il y a une continuité, il y a une logique d'inspiration, mais le monde d'Andersen est un monde, c'est un monde assez noir, et en fait, c'est un monde très inquiétant. C'est un monde très inquiétant. Je me demande, il y a une, alors là, ça dépasse vraiment mes capacités, mais je pense qu'il y a un rapport avec la chair. Dans un univers protestant, je me demande si la chair n'est pas le lieu de tous les tourments, de tous les sévices possibles. Mais si vous songez aussi de façon anachronique au cinéma de Dreyer, par exemple, je pense à Jour de colère de Dreyer où il y a ces figures de sorcières et il y a quelque chose, il y a une inquiétude de la chair et une inquiétude du féminin qui est à l'œuvre. Parce que la mort et la mère, c'est une sculpture terrible aussi.
Mais ce qui est curieux, vous avez tout à fait raison, je crois, mais ce qui est curieux, c'est à quel point ce thème est fort dans l'époque. Regardez le goût de Kupka, par exemple, dans cette période de 1901-1902 pour les scènes terrifiantes, les sphinx inquiétants, etc. Ou bien dans l'exposition, dans votre exposition, cher Jérôme Godot, Munch, quand même une personnalité incroyable.
Mais... est-ce qu'au fond, toute cette exposition n'est pas une interrogation perpétuelle sur le féminin dans son ambivalence, puisque le féminin est à la fois le lieu, si je puis me permettre, d'où nous sortons, c'est donc l'origine, et en même temps, c'est le lieu du désir. Donc, c'est le lieu aussi où nous rentrons. Donc, il y a une ambivalence, en tout cas pour le masculin, foncière du féminin, et je me demande si cette arabesque, ou ces courbes qui à la fois s'entrouvrent, s'élèvent, ou au contraire se referment et vous étouffent, si on n'est pas toujours dans cette espèce ce qui apparaît en tout cas aux yeux du masculin comme une ambivalence ou une ambiguïté qu'il va falloir traverser.
En tout cas, la femme vampire chez Munch, on le sent extrêmement bien. Il y a un dessin qui, je dois dire, m'a absolument bluffé, parce que c'est pas un artiste que j'admire souvent, mais un dessin d'Eugène Carrière, qui est une sorte de silhouette inouïe.
C'est
un dessin d'Orsay, qui est un des plus beaux dessins de l'époque, je crois.
C'est un dessin superbe. Effectivement, là, c'est très troublant, parce que c'est à la fois comme une femme enceinte, et en même temps, c'est une figure de la mort.
Oui, parce que les jambes, on devine les os du squelette dans la partie des jambes. Oui. Et c'est un dessin. Enfin, chers auditeurs, si vous voyez l'exposition, ne manquez pas ce dessin, c'est une merveille. Et souvent, je suis un peu lassé par Carrière, parce qu'il y a un procédé.
Mais il y a un côté, non, mais c'est vrai qu'il y a un côté répétitif. C'est pas toujours, enfin, qui suis-je pour dire ça, mais c'est pas toujours si magnifique. Mais là, la conjonction d'ailleurs à côté du Munch, c'est extraordinaire.
Alors, peut-être pourrait-on lire, puisque nous sommes en train d'évoquer Kubka et cet univers, l'influence, évidemment, de l'inquiétante étrangeté, pas celle de Freud, qui pourtant est bien présente dans l'exposition, et nous pourrons parler de ce texte dans quelques instants, de cet article très important que Freud a écrit, bien entendu, et qui a inspiré tellement Quirico et tous les artistes de la nouvelle objectivité, etc. Mais là, je pense plutôt à un texte, à une traduction de Poe par Mallarmé. Parce qu'évidemment, Poe Mallarmé, c'est Mallarmé qui voulait que le coup de dé soit illustré par Dylan Redon. Oui, donc on reste vraiment dans le même monde. Et écoutons.
Terre de songe. Par une sombre route déserte, hantée de mauvais anges seuls, où une idole nommée Nuit, sur un trône noir, règne debout. Je ne suis arrivé en cette terre-ci que nouvellement, d'une extrême et vague tulée. D'un étrange et fatidique climat qui gît, sublime, hors de l'espace, hors du temps. Dans les lacs qui ainsi débordent de leurs eaux solitaires, solitaires et mortes, leurs eaux tristes, tristes et glacées de la neige des lys inclinés, par les montagnes, par les bois gris, par le marécage où s'installent le crapaud et le lézard, par les flaques et les étangs lugubres où habitent les goules, en chaque lieu le plus décrié, dans chaque coin le plus mélancolique, partout, le voyageur rencontre effaré les réminiscences drapées du passé, formes ensevelies qui reculent et soupirent quand elles passent près du promeneur, formes aux plis blancs d'amis rendus il y a longtemps par l'agonie à la terre et au ciel.
Chapeau.
Beau texte, hein.
Magnifique, les réminiscences drapées, c'est magnifique.
Ouais. Et bon, alors évidemment, traduction de Mallarmé, mais on sent la correspondance des mondes à une époque, c'est très...
Mais tout ce jeu des correspondances, au fond, un des pères de c'est Baudelaire aussi, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, parce que l'ombre de Baudelaire est partout présente, à la fois dans l'exposition et dans le symbolisme. En fait, c'est une des matrices, les fleurs du mal, ont une influence énorme. D'ailleurs, Jacobsen, les fleurs du mal sont une des sources d'inspiration, je dirais, quasi officielle du symbolisme danois. Donc là, on sait à quel point vous parliez tout à l'heure de l'influence littéraire. La figure de Baudelaire est vraiment une des figures fondatrices.
Et vous pensez que l'expression de l'inquiétante étrangeté... c'est quelque chose qui vous convainc, l'idée que Freud ait pu être sensible à cette ambiance ?
Écoutez, je pense que...
Au contraire.
Je ne sais pas si... Le rapport que Freud avait avec les arts plastiques, au fond, n'était probablement pas forcément une question pour lui. Mais en tout cas, l'inquiétante étrangeté, elle est vraiment au cœur du symbolisme. Et la psychanalyse est un instrument, je dirais... tellement fondateur et tellement éclairant. C'est presque... Là, il était d'une certaine manière impossible dans cette notion même du transfert plastique, c'est impossible de ne pas ouvrir, des voies de traverse ou des passerelles avec une lecture analytique.
Vous avez fait donc cette exposition. Vous avez l'impression que... il y a des associations qu'on ne fait pas d'habitude. Par exemple, je me suis aperçu qu'il y avait Galet, qu'on imagine évidemment dans l'architecture comestible dont vous parliez de Salvador Dali, mais que je ne m'attendais pas à trouver, en fait,
mais
là.
C'est d'ailleurs un des regrets, Orsay a été si généreux, il nous a prêté tellement de choses mais je regrette que cette main aux algues de Galet, en fait, d'ailleurs, nous n'en avons pas demandé le prêt, mais elle aurait été parfaite. Elle aurait été parfaite parce que il y a là aussi, dans ce jeu de la matérialité et à la fois de ce qui fige et en même temps de ce qui coule, de ce qui est opaque et en même temps translucide, dans ce jeu à nouveau du à la fois. On est au fond, une des vertus du symbolisme, c'est aussi d'avoir marié des formes d'art très différentes et d'avoir finalement subverti entre art majeur, art mineur, ça n'existe plus.
C'est quelque chose qui est très frappant dans l'exposition, ouais. C'est que effectivement on est dans un climat dans lequel les arts se rencontrent et se cèdent les uns les autres, s'épaulent.
Tout correspond et tout fait signe.
Voilà.
En fait, oui, au fond, la psychanalyse, ça n'est jamais rien d'autre que l'art d'essayer à la fois de reconnaître et de décrypter les signes.
Et l'artiste dont nous parlons majoritairement aujourd'hui, donc Jacobsen, a gardé, moi je l'avais oublié dans mes études, si je puis dire, il a gardé une audience, c'est quelqu'un qui est par vos collègues spécialistes, connaisseurs, qui est repéré, ou bien c'est un artiste marginal dans notre mémoire?
Moi, je dois vous avouer qu'en fait, je ne le connaissais pas. Édouard Papé avait fait une exposition tout à fait fascinante sur le masque. Il y avait le fameux masque de l'automne de Jacobsen.
Qui figure sur la couverture.
Qui figure sur la couverture, qui est une des pièces maîtresses de l'exposition. Je suis pas sûr que Amélie Simi, puisqu'elle connaît tout, donc elle connaissait Jacobsen. Mais au-delà de ça, c'est un peu une première quand même, parce qu'il n'y a jamais eu d'exposition, en tout cas sur la période parisienne. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il est en même temps, il est profondément danois, et en même temps, c'est à Paris que ça se révèle. Et il est vraiment dans un bain collectif, comme vous le disiez très justement. On est dans un jeu de correspondance.
Alors je trouve que le musée Bourdel, qui va d'éclat en éclat, je me souviens par exemple de cette exposition absolument fantastique qu'on avait vue sur le mannequin d'atelier.
Ça c'était formidable.
Comment c'était quoi le titre déjà?
Mannequin d'artiste, mannequin fétiche.
C'est extraordinaire, parce que de la fin du 17e au 20e
siècle.
Mais
ça c'était le travail de Jane Monroe, qui est une remarquable historienne de l'art et avec laquelle Amélie Simier a travaillé. C'était une exposition fascinante. C'était une exposition fascinante et qui ouvrait des perspectives. Enfin, je trouve que ce qui est passionnant dans une exposition, c'est quand finalement la forme plastique induit à la fois une réflexion et un travail psychique. Et c'est là, me semble-t-il, c'est un peu ça le cœur de métier d'une exposition. C'est au fond, est-ce qu'on peut arriver à une forme d'intelligence plastique?
Oui, et je trouve que là, on l'a parce qu'elle rebondit sur tous les climats, sur tous les savoirs, les créativités d'une époque, et les œuvres s'épaulent les unes les autres, et du coup, on a une lecture d'époque réellement.
Eh bien écoutez, Jean de Loisy, si vous êtes convaincu, c'est très bon signe, et nous en sommes très heureux.
Merci et bravo Jérôme Godeau, et merci à Amélie Simier, votre directrice.
Eh bien, c'est nous qui vous remercions.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper, comme des mouches, quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière, par Jean de Loisy, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Jérôme Godeau pour parler des contes étranges de Niels Hansen Jacobsen qui se tient jusqu'au 31 mai au musée Bourdel. Vous retrouverez évidemment les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, évidemment, notre cher Emmanuel Lemire. Merci Emmanuel pour cette belle voix. Prise de son, Valérie Lavalla. Réalisation, Davy Travailleurs. La semaine prochaine, nous parlerons de l'exposition que Jean-Jacques Lebel a conçue pour le Musée des Beaux-Arts de Nantes et qui va commencer dans quelques jours et que nous allons commenter avec lui. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.